Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de Géopolis, votre émission qui explore les ordres et désordres du monde.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Géopolis que nous consacrons aujourd'hui aux 30 ans de la chute de l'URSS intervenue, on s'en rappelle, le 25 décembre 1991, presque 70 ans après sa création. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir en ligne un témoin de premier plan de ces événements, Andreï Gratchev. Bonjour Monsieur Gratchev et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Alors Monsieur Gratchev, vous avez accompagné Mikhaïl Gorbatchev dans sa mission à la tête de cet État de 1985 à 1991. Vous étiez notamment à ses côtés dans ces derniers mois pendant lesquels le président soviétique a tenté par tous les moyens de sauver l'URSS qui se délitait de toutes parts. Vous avez d'ailleurs récemment publié un ouvrage sur ce sujet où vous revenez sur vos souvenirs de cette époque, le jour où l'URSS a disparu aux éditions de l'Observatoire et dont je recommande chaleureusement la lecture. Alors aujourd'hui, quand vous regardez ce processus de la chute de l'Union soviétique, vous vous dites qu'il était finalement inexorable ou qu'il aurait pu être éviter si, par exemple, le putsch d'août 1991 n'avait pas eu lieu?
Écoutez, tout dépend de ce qu'on entend par éviter l'effondrement de l'Union soviétique. Évidemment, de mon point de vue, il était plus réaliste, et ceci depuis pas mal de temps, de le maintenir en sa forme originale, telle qu'elle avait été construite, conçue et maintenue par le système soviétique pendant, comme vous l'avez rappelé, presque 70 ans. Par contre, un État réformé, démocratisé, modernisé, en accord avec le temps et avec, y compris, les exigences de sa propre société, c'était ça le challenge, le choix de Gorbatchev. À mon avis, c'était envisageable. Le fait qu'il a rencontré une résistance violente en forme d'un putsch, ou plutôt la tentative de putsch du mois d'août 91, suivi par la suite par une sorte de révolte des barons républicains de l'ensemble des républiques qui constituaient cette fédération soviétique, bon, nous montre que peut-être il a visé trop haut ou que peut-être il s'agissait d'une mission impossible.
Est-ce que vous nous dites dans votre ouvrage, ce qu'on découvre et ce qui est aussi assez paradoxal, c'est que finalement, ce coup d'État de 1991, dont l'objectif était de sauver l'URSS, il en aura finalement précipité la chute.
Oui, exactement. Curieusement, et j'avais une chance, ou du moins la possibilité d'interroger certains acteurs de ce putsch raté, de ce putsch amateur, comme je dis, parce qu'y compris entre eux, ils n'étaient pas en accord sur la tactique à choisir pour la réaliser. Il y avait des partisans de la ligne dure, un peu à la chinoise, c'est-à-dire qui s'inspiraient de l'exemple de Tiananmen 89, réalisé par la direction du Parti communiste chinois 2 ans plus tôt. Mais il y avait des autres qui, reflétant déjà les 6 années de transformation de la société soviétique qui était obtenue par le projet gorbatchevien, n'étaient pas prêts à transformer la place rouge à Moscou en la place Tiananmen. Donc, c'était les désaccords entre ces courants, ces deux tendances au sein de ces initiateurs de putsch qui l'ont conduit à l'échec. Mais curieusement, comme vous le dites, le résultat était le contraire de leurs objectifs initiaux, c'est-à-dire l'accélération de l'effondrement de toute cette structure de l'État fédéral qui, depuis plus de 60 ans, était maintenue essentiellement par la coercition et la force.
Et alors, il y a un autre moment, M. Gratchev aussi, qui est peut-être beaucoup moins connu, mais qui a contribué largement au délitement de l'Union soviétique. Vous l'intitulez, c'est un chapitre que vous intitulez « Le jour où l'URSS quitte l'URSS », c'est le moment où Moscou, où la Russie, la République de Russie, dirigée par Boris Yeltsin, déjà à l'époque, cesse de contribuer financièrement au fonctionnement des organes centraux du pays. Ça porte un coup fatal à l'Union,
C'est ça, parce que c'est cet aspect de contradiction intérieure au sein déjà du projet Gorbatchev initial, de la sortie du système soviétique, de matrix bolchevique que représentait l'Union soviétique depuis sa création, le conflit entre les réformateurs dits radicaux, avec à leur tête Boris Yeltsin, et réformateurs de tendance social-démocrate, ceux qui espéraient, Gorbatchev, qui était le porte-parole et le dirigeant, l'auteur de ce projet, qui espéraient à ce que, en évitant la confrontation des extrêmes, une voie médiane de transformation sans révolution, une sorte de révolution. J'emprunte ici un terme frappé par l'écrivain britannique Timothy Garton Ash, pourrait, en sacrifiant le système, maintenir l'État. Et donc cette deuxième dimension était le conflit entre ces deux tendances au sein du projet de la sortie du communisme. Et il était en plus personnifié dans le conflit des deux dirigeants de ces deux courants, Gorbatchev et Yeltsin. Yeltsin, qui, à un certain moment, ostracisé par Gorbatchev, marginalisé parce que il se croyait injustement traité par le bureau politique, a trouvé le refuge dans les structures de pouvoir républicain de la République russe, ce qui a rendu toute la construction de l'État fédéral qui était conçu et qui était symboliquement, qui représentait une union volontaire des 15 républiques soviétiques, cette construction est devenue immédiatement fragile à partir du moment où le centre de cet univers, la Russie, autour duquel naviguaient les autres républiques, a annoncé son intention de quitter l'État fédéral.
Alors, Monsieur Gratchev, vous consacrez de nombreuses pages dans votre ouvrage « Le jour où l'URSS a disparu ». Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur l'ambiance dans ces derniers jours de Gorbatchev au Kremlin, qui n'était alors plus que le chef d'un État qui n'existait déjà presque plus, hein ?
Oui, Gorbatchev passe seulement comme en politique, comme dirigeant de l'Union soviétique, mais aussi comme leader et auteur, initiateur de ce projet réformateur, a été, je dirais, mortellement blessé du point de vue politique par la tentative de putsch de mois d'août. Et ce qui l'a affaibli radicalement, c'était le fait de ce que, même s'il a pu, suite à l'échec de putsch, maintenir formellement son statut de chef de l'État et du président de l'Union soviétique, il y a eu un échange de rôle entre lui et Yeltsin. Alors que jusqu'au putsch, c'était lui qui était l'initiateur, le leader reconnu, y compris par Yeltsin, comme le leader pas seulement de l'ex-Union soviétique, mais aussi du prochain Union soviétique, qui devait se transformer en une sorte de la confédération des républiques souveraines. À la sortie de putsch, qui a connu l'échec grâce à la résistance dirigée par Yeltsin, c'est Yeltsin qui prend la tête du processus de la transformation ultérieure de l'Union soviétique et finalement de sa décomposition. Gorbatchev, dans les mois qui ont suivi le mois d'août jusqu'à décembre 25, où il était obligé de faire la déclaration de sa démission, a vécu ce que j'appelle dans mon livre les 100 jours qui l'ont séparé de son retour à la tête de son pays jusqu'aux sortes de Waterloo qu'il a connu en début du mois de décembre, en apprenant le 8 décembre la nouvelle de ce que le leader des trois républiques slaves les plus importantes, la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie, qui s'étaient réunies pas loin de Minsk, dans la forêt de Belovège, leur décision de dissoudre l'Union soviétique et de cette façon finalement de limoger Gorbatchev comme le grand réformateur de cette structure. Donc les mois qui ont suivi le putsch pour Gorbatchev s'étaient limités pratiquement à des dernières tentatives de sauver plutôt la carapace de l'ancien État, une sorte de cadre symbolique qui lui permettrait, ce qui n'était pas négligeable quand même pour lui, d'espérer de continuer son projet de réforme démocratique à l'intérieur de l'État, mais aussi, ce qui était important, de maintenir l'Union soviétique comme un acteur important, présent sur la scène internationale, nécessaire pour le maintien de l'équilibre stratégique mondial.
Alors il y a toujours hein, dans la grande histoire la petite, et la petite histoire, là en l'occurrence, c'est vous, Monsieur Grassev, qui avez permis à l'URSS de tenir un jour de plus, parce que Gorbatchev, votre patron, avait initialement prévu de démissionner le 24 décembre, et vous lui avez conseillé de le faire plutôt le 25, hein, pour ne pas assombrir les fêtes de Noël au niveau international. Hein.
Oui, c'est vrai, c'est mon petit apport à la grande histoire de l'Union soviétique. J'ai réussi de cette façon de prolonger de 24 heures, d'un jour au moins, l'histoire soviétique, parce que j'ai expliqué à Gorbatchev que sa décision initiale de prononcer son discours de démission le soir du 24 décembre, évidemment, allait casser tout le programme et tout le rituel familial pour des millions de familles et des catholiques à travers le monde, peut-être assombrir l'atmosphère de la fête de l'année.
Alors, je voudrais revenir avec vous, Monsieur Gratchev, sur cette date du 8 décembre que vous avez évoquée, quand les présidents russes, ukrainiens et biélorusses se réunissent à côté de Minsk, hein, dans la forêt de Belavej, pour acter la chute de l'Union soviétique. J'ai noté dans la description que vous faites de cette rencontre un aspect là aussi qui est peu connu, mais qui a beaucoup de résonance aujourd'hui. Se pose alors la question de la Crimée. On se souvient, cette région qui avait été rattachée à l'Ukraine, à la République soviétique d'Ukraine en 1954 par Khrouchtchev. À l'époque, ça n'avait pas vraiment d'incidence. Le président ukrainien demande donc à Yeltsin, en 1991, quand il s'agit d'acter la fin de l'Union soviétique, il dit « Qu'est-ce qu'on fait pour la Crimée ?» Et Yeltsin, visiblement en forme, lui répond « Prenez-la ». Ça s'est vraiment passé comme ça ?
Oui, tout à fait. Dans un certain sens, Yeltsin a fait un cadeau de la Crimée au président ukrainien, en échange de son soutien pour le Kremlin, c'est-à-dire pour l'installation de Yeltsin dans le siège de Gorbatchev au Kremlin. Pour Yeltsin, à l'époque, il faut bien le dire, toute la perspective de la vie posthume, en quelque sorte, de l'ex-Union soviétique se présentait dans une forme assez vague. Il était, comme me l'ont confirmé les membres de son entourage, il était convaincu de ce que, le même État pratiquement, c'est-à-dire l'ex-Union soviétique, allait être reconstitué, mais déjà sous la bannière, sous le drapeau russe, parce qu'il était convaincu que de toute façon, les républiques soviétiques n'avaient pas de chance de survivre sans leur rattachement à nouveau à la Russie. Donc, il a cru que finalement, tracer les frontières d'État entre les républiques soviétiques, se réduisait finalement à des procédures symboliques. Mais non plus, il n'a pas pensé à des conséquences politiques, économiques, on peut maintenant dire stratégiques, que pourrait représenter l'apparition des frontières officielles étatiques entre les républiques qui, jusque-là, depuis des décennies, ne vivaient que comme des districts administratifs d'un État centralisé. Gorbatchev, au contraire, était très inquiet parce qu'il se rendait compte de toute la complexité du tableau, de la carte démographique, économique, sociale et stratégique de la superpuissance soviétique. parce qu'il disait, y compris dans sa conversation avec le président américain Bush, qui se précipitait à annoncer son intention de reconnaître l'Ukraine indépendante, de ce que si cela devait devenir une réalité, alors les minorités russophones dispersées à travers le territoire de l'ensemble de l'Union soviétique étaient menacées de se transformer en les minorités discriminées, ce qui devait concerner aussi le cas de la Crimée, peuplée à travers son histoire de plusieurs siècles par la population, pas seulement russophone, mais tout simplement russe.
Et avec le recul que nous avons, ces 30 ans qui nous séparent aujourd'hui de la chute de l'URSS, aujourd'hui, vous diriez quoi ? Qu'est-ce qui a été la plus grosse erreur qui a été commise par votre ancien patron, Mikhail Gorbatchev, pour éviter le délitement, de s'être mal entouré ? On sait que le putsch de 1991 avait notamment été fomenté par des hommes qui avaient tous été mis en place par Gorbatchev. Vous diriez qu'il a trop négligé la question des nationalités ? Est-ce qu'il n'a pas aussi assez travaillé à monnayer les différentes concessions qu'il avait pu faire aux Occidentaux?
Écoutez, Gorbatchev, depuis l'éclatement de l'Union soviétique, a entendu des multiples reproches et même des accusations, enfin, d'avoir commis des erreurs parfois dramatiques, parfois fatales, qui ont conduit l'État qu'il dirigeait à son éclatement. Personne ne peut dire si, même s'ils avaient réussi à écarter, par exemple, le putsch ou neutraliser le danger de putsch du mois d'août de 91. D'ailleurs, il en était prévenu de ce danger par des signaux qui lui étaient communiqués venant de différentes sources. En même temps, on oublie combien d'autres tentatives ou des dangers véritables et réels, soit de putsch, soit d'un coup d'État, soit tout simplement de l'arrêt de son projet qu'il a réussi d'éviter à travers les 6 ans de son projet. Bon, en regardant en arrière, on peut dire que probablement s'être entouré des futurs putschistes était une erreur de trop de ce point de vue. Sauf que même sans ce putsch de mois d'août, on ne peut pas être certain de ce que l'Union soviétique serait maintenue ou pouvait survivre longtemps dans la formule qui ne serait pas acceptée par les composantes de cette fédération. Et surtout, en sacrifiant ce qui était pratiquement la règle majeure ou le moyen essentiel de son maintien de maintien de cet État, c'est-à-dire l'État fort, centralisé et répressif.
Est-ce qu'aujourd'hui, 30 ans après la chute de l'Union soviétique, cette date, ce 25 décembre 91, il a été célébré d'une quelconque façon en Russie, ou alors elle a été, cette date, complètement passée sous silence ?
Non, la date, évidemment, n'était pas passée sous silence, d'autant plus que, avec le temps, on découvre de plus en plus des nostalgiques de cet État, de cette ancienne superpuissance, de cet empire qu'était pratiquement l'Union soviétique sous l'étiquette idéologique. Pas mal de ces nostalgiques expriment ou formulent les reproches à Gorbatchev pour des raisons parfois très différentes. Certains d'eux, parce qu'il s'agit quand même d'une période importante, les 30 ans passés, n'ont pas connu ou n'ont plus de souvenirs de la vie quotidienne de l'époque soviétique, ce qui ne les empêche pas d'exprimer la nostalgie pour la grande époque où l'Union soviétique était la deuxième puissance mondiale qui partageait la gestion des affaires du monde avec son grand rival stratégique et historique, les États-Unis. Ceci étant, je crois que même si, comme le président actuel de la Russie, Vladimir Poutine, le formule, pas mal des Russes, mais d'ailleurs pas que des Russes. On trouve des nostalgiques de cet État, de cette époque soviétique, même dans les autres républiques ex-soviétiques, sont prêts à répéter avec lui de ce que la disparition de l'Union soviétique était une grande catastrophe géostratégique du XXe siècle, peut-être la plus grande, comme le dit Poutine, mais je crois Poutine en premier, serait prête à véritablement effectuer un retour à l'époque soviétique telle qu'elle existait avant Gorbatchev. Bon, il suffit peut-être de rappeler à ce que la carrière de Vladimir Poutine ne connaîtrait jamais une évolution qu'elle a connue grâce à la disparition de cet État.
Alors évidemment, cette situation, elle a lieu dans un contexte déjà très tendu avec les Occidentaux, Poutine accusant ceux-ci de chercher par tous les moyens à faire entrer certains pays de son ancienne zone d'influence dans l'Union ou dans l'OTAN. Poutine dénonce notamment des promesses qui auraient été faites dans les années 90 à Gorbatchev par les Occidentaux et qui n'auraient pas été respectées. Alors il n'y a pas vraiment de traces, hein, d'écrits de ces promesses, mais est-ce que vous nous confirmez qu'elles avaient vraiment été faites à Gorbatchev?
Oui, je peux le confirmer, c'est pas comme moi. Il y a des textes, il y a des protocoles, il y a des comptes rendus, des entretiens qu'a eu Gorbatchev avec les dirigeants des pays de l'OTAN, en commençant par les Américains. C'était le secrétaire d'État de George Bush, qui était à Moscou en janvier 1990, qui discutait avec Gorbatchev la question de la perspective de l'éventuelle entrée de l'Allemagne unifiée dans l'OTAN, et c'est lui qui a formulé, en le disant de la part du président américain, la promesse de ce que les structures militaires de l'OTAN n'avanceraient pas au-delà de la ligne de démarcation, on peut dire de la frontière qui existait à l'époque entre les deux États allemands. Évidemment, pour Gorbatchev, soulever à ce moment une demande formelle de la promesse par les dirigeants de l'OTAN de ne plus avancer au-delà de l'Allemagne dans les territoires des autres membres du pacte de Varsovie, signifierait déjà la perspective avec laquelle, pratiquement, il devait annoncer son accord, la disparition de pacte de Varsovie et la disparition de l'existence de cet équilibre stratégique sur la base duquel, d'ailleurs, à travers plusieurs décennies, une stabilité perverse dans le climat de la guerre froide était maintenue. Ceci étant, même s'il n'y avait pas des textes formels ni des engagements juridiques signés entre les dirigeants des pays de l'OTAN et les dirigeants soviétiques à l'époque, l'esprit, bien sûr, qui prévalait dans cette période de la sortie de la guerre froide, obtenue largement grâce aux efforts et à l'initiative de Gorbatchev, n'était pas respecté, parce que finalement l'accord de Gorbatchev pour que l'Allemagne unifiée entre dans les structures de l'OTAN était dans un certain sens conditionné par deux considérations. La première, de ce que suite à la fin de la guerre froide, les structures de l'équilibre de force basé sur l'existence de deux blocs militaires en Europe, l'OTAN et le pacte de Varsovie, seraient remplacés par une structure de sécurité collective qui intégrerait à la fois les pays de l'Ouest comme de l'Est. Et une deuxième considération très importante pour Gorbatchev à l'époque était aussi d'espérer et même d'exiger à ce que la Russie, ou plutôt l'Union soviétique dans son ensemble, transformé, modifié par le projet de la démocratisation de la perestroïka, serait intégré dans la famille commune, dans la maison commune européenne, un autre projet gorbatchevien, que Gorbatchev considérait non seulement comme un moyen d'éviter la reconstitution d'une nouvelle version du rideau de fer qui couperait l'Europe en deux parties, mais aussi comme un moyen politique qui lui faciliterait la poursuite de son projet de l'européanisation de la société soviétique. Pour ce qui concerne Gorbatchev, il a tenu ses promesses, pas l'Occident.
Alors Navalny est en prison, l'organisation Mémorial qui travaillait sur la documentation des crimes de la terreur stalinienne vient d'être dissoute. Que reste-t-il des bases démocratiques, du vent de liberté que vous aviez cherché à faire souffler sur l'URSS ?
Bon, là, on assiste, pour ce qui concerne le climat intérieur de la Russie, certainement, un retour de dégel qui peut rappeler les époques qui avaient précédé à la perestroïka gorbatchevienne. Le retour et même le renforcement des caractéristiques autoritaires dans la gestion de cette société par le régime en place. Et Mémorial n'est qu'un des éléments de plus qui confirme cette tendance. D'une certaine façon, on peut trouver des parallèles en revenant à l'expérience des autres révolutions politiques, parce que, après tout, je persiste à considérer la perestroïka comme une révolution qui a peut-être à éviter son nom, mais qui était une sorte de révolution préventive. Bon, on a eu aussi dans l'histoire les exemples, les précédentes, quand les révolutions se finissaient par le retour en place des régimes autoritaires présidés par des généraux ou par des colonels. Dans notre cas, dans le cas de la Russie, il s'agissait même d'un sous-colonel qui était mis à la tête de cet État. C'est peut-être une logique qui reflète la difficulté de la transformation d'une société aussi contradictoire, aussi lourde et aussi difficile à travailler comme était la société russe, qui a été marquée par les décennies de l'expérience soviétique, par des siècles de son histoire tsariste, et donc de ce point de vue, et surtout en absence des perspectives, la réunion de la Russie avec le reste de l'Europe, ces tendances commencent à faire le retour d'une façon de plus en plus éclatante.
Alors on le voit, le Kremlin masse son armée aux frontières de l'Ukraine, soutient à bout de bras le régime de Loukachenko au Bélarus. Il vient de dépêcher des militaires au Kazakhstan, secoué par des manifestations violentes. Il fait feu de tout bois pour maintenir ses positions dans la zone ou en gagner de nouvelles. Et en venant à la rescousse de dictateurs conspués par sa propre population, ne risque-t-il pas de s'aliéner des populations jusqu'alors proches de Moscou ?
Bon, pour ce qui concerne la situation au Kazakhstan, à mon avis, elle est pour le moment assez chaude pour en tirer des conclusions, d'autant plus que j'espère que cette fois, contrairement par exemple à des intentions des dirigeants soviétiques qui avaient annoncé en 1979, au moment de l'envoi des troupes soviétiques en Afghanistan, enfin, eux aussi promettaient le retour assez rapide de ces troupes dans leurs frontières nationales. J'ai l'impression que cette fois, ces troupes russes peuvent rentrer assez rapidement à partir du moment où l'ordre serait établi dans les rues de la capitale et la deuxième capitale économique Almaty, parce que finalement, faut bien voir ce qu'étaient les raisons de la montée des passions à l'intérieur de cette société. Il s'agit pour moi beaucoup plus de la bataille des clans qui représente d'un côté l'ancien président de Kazakhstan, Nazarbayev, et le nouveau président Tokayev qui est venu le remplacer, c'est-à-dire plutôt l'instrumentalisation de la rue par les manipulateurs des deux côtés, et à partir du moment où la phase violente de leur confrontation soit neutralisée, les troupes russes n'auront plus de raison de rester au Kazakhstan.
Eh bien, je vous remercie très chaleureusement, Monsieur Gratchev, d'avoir bien voulu partager avec les auditeurs de radio vos souvenirs de la fin de l'URSS que vous avez suivi de très près auprès de Mikhaïl Gorbatchev pendant toute la période pendant laquelle il était à la tête de l'Union soviétique de 1985 à 1991. Pour les auditeurs qui souhaiteraient aller plus loin, je recommande bien sûr très chaleureusement la lecture de l'ouvrage que vous venez de publier, Le jour où l'URSS a disparu, aux éditions de l'Observatoire. Merci encore, Monsieur Gratchev, d'être intervenu sur nos ondes.
Merci à vous, Louis, et bonne année.